Peut-on écrire sur l'esclavage quand on est blanc? La question paraît abrupte, si ce n'est absurde, chez nous en France, mais aux États-Unis, elle illustre radicalement les limites de la lutte contre le racisme. Bonjour, Timothée de Fombelle.
Bonjour.
Merci d'être à notre micro ce matin, car on a voulu vous donner la parole après la censure, enfin, vous nous direz ce que vous en pensez après, que vous subissez de l'autre côté de l'Atlantique. Mais commençons par parler de votre livre. Le titre, c'est Alma. Il vient de sortir en librairie chez Gallimard Jeunesse. C'est une histoire croisée de deux adolescents. Racontez-nous, Timothée de Fombelle.
Oui, c'est à peu près ça. On a une jeune fille, Alma, qui vit au fond d'une vallée, au creux d'une vallée, en Afrique, au milieu de sa famille, dernier survivant d'un peuple, le peuple Oko, qui tout à coup, s'échappant de cette vallée protégée, ce paradis perdu, va se retrouver dans le bouillonnement de l'Atlantique du 18e. Puis d'un autre côté,
il y a Joseph.
Trajectoire qui vont, à mon avis, se rencontrer, qui vont se rencontrer. Allez, tant pis pour
le dire.
Voilà.
Lui s'embarque sur un navire.
Ouais,
Lisbonne.
Il part de Lisbonne et puis il sait pas vraiment, à vrai dire, sur quoi il s'embarque. Et il s'embarque sur un navire négrier.
Ça se passe à la fin du XVIIIe siècle et vous parlez donc du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles, l'Amérique. Pourquoi vous avez voulu parler de ce sujet? Qu'est-ce qui est important dans ce sujet aujourd'hui?
Je pense qu'on écrit avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. Moi, il se trouve que j'ai vécu quelques années de mon adolescence en Afrique.
En Côte d'Ivoire,
ouais. J'ai découvert les forts qui sont juste à côté de la Côte d'Ivoire, au Ghana, là, sur l'ancienne Côte de l'Or. Des forteresses hollandaises, anglaises, des forts français aussi, où étaient triés les esclaves, où ils étaient parqués avant d'être embarqués dans ces grands navires qui partaient à travers l'Atlantique. Et ces captifs, ces millions de captifs africains étaient arrachés à leur terre à partir de là. Et ça a été un choc, j'avais 13 ans. Comme par hasard, mes héros ont 13 ans et mes lecteurs en ont pas beaucoup plus. Donc, il y a cette croisée là qui fait que ce livre devait exister.
Mais vous avez mis du temps à l'écrire, ce livre.
Oui, on tarde, on renacle parce que c'est trop important et qu'on va l'abîmer, ce sujet qui nous travaille depuis longtemps. Et puis un jour, on peut pas faire autrement que l'écrire, et c'était il y a 4-5 ans quand je me suis mis au travail.
Alors ce livre, il a déjà reçu le prix France Télévisions 2020. Vous êtes habitué au prix, hein, vous en avez reçu des dizaines, des prix littéraires. Vous êtes également traduit dans des dizaines de langues. Puis vous avez déjà des très bonnes critiques, hein, pour Alma. On parle de la puissance de votre récit, la promesse d'un chef-d'œuvre. Parce que là, c'est le tome 1 qui est sorti, ce sera une trilogie, c'est
ouais,
ça.
Ouais, j'ai le don de faire que des promesses et puis ensuite il faut les tenir pendant des années après, par la suite. Mais oui, c'est le début d'une trilogie.
Mais voilà votre éditeur anglo-saxon qui s'appelle Walker Books, qui a déjà publié une douzaine de vos précédents romans. Eh bien là, il ne veut pas sortir l'histoire d'Alma. Qu'est-ce qu'on vous a dit chez Walker Books ?
Alors, on m'a dit simplement qu'on voulait pas. Alors, moi, j'ai tendance quand on me donne une réponse à entendre la réponse et pas forcément la justification. Mais bon, elle était quand même assez argumentée sur le fait que ils ne voulaient pas promouvoir, disons, une écriture blanche sur ce sujet. Peut-être en ce moment aussi. Peut-être, voilà. Et c'est quelque chose que moi...
Vous comprenez ou pas?
Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose qui m'a travaillé pendant l'écriture. C'est-à-dire, j'étais devant ces documents, cette histoire entièrement racontée par des blancs depuis des siècles. Et donc, j'étais devant ça. Et je me disais, je vais ajouter une voix blanche à ça. Mais on peut pas faire autrement qu'écrire ce qu'on a en soi, ce qui nous habite. Et je sentais que, voilà, je peux pas faire un cri, il est poussé par celui qui a envie de crier et on peut pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Donc je savais qu'il y avait cette problématique là, mais je pense qu'aussi c'est la définition de la littérature, ce regard en biais, ce regard déformé, difforme. Oui, je suis pas, j'ai pas de regard, et personne n'a de regard objectif sur un événement historique et encore moins sur une tragédie qui a duré des centaines d'années, voire des millénaires pour l'esclavage en général.
On vous reproche aussi de vous être mis dans la peau d'une petite fille africaine, dans la peau d'Alma, hein. Une petite fille, une adolescente africaine. Vous le comprenez, ça?
Alors ça pour le coup, je le comprends pas, parce que je passe ma vie à ça. J'ai choisi cette activité d'écrire pour ça, pour pouvoir le matin vivre d'autres vies que la mienne. Ça me paraît, c'est pour ça que je le fais, c'est peut-être pour ça qu'on me lit aussi, et c'est pour ça que j'aime pas, vous avez dit le mot censure, je suis tout sauf censuré.
Ce n'est pas de la censure, ce n'est selon pas, vous.
Ah non, pour moi c'est pas du tout de la censure, je suis victime de rien du tout, sincèrement c'est même presque mon point de vue sur les choses dans ce que j'écris, c'est peut-être c'est de quelqu'un qui n'est pas victime de grand chose et qui s'ouvre à d'autres drames, à d'autres victimes, peut-être par cette porosité là qu'on a quand on raconte des histoires.
Vous comprenez quand même cette notion d'appropriation culturelle, parce qu'on parle bien de ça en ce moment aux États-Unis. L'appropriation culturelle, c'est la spoliation. On dit que c'est la spoliation d'une culture dominée par une culture dominante, et ce sont les dominés qui en récupèrent les retombées économiques.
Alors je vois qu'une chose, c'est que en ce moment dans toutes les librairies de France, il y a une petite pile de livres avec une héroïne noire je sais pas si c'est déjà arrivé pour dans la littérature jeunesse d'avoir comme ça vraiment très extrêmement lu, je pense vraiment c'est à l'entrée des librairies cette héroïne là. Donc je vois ça, et ça je pouvais le faire, créer cette héroïne. Ce que je pouvais pas faire, c'est être noir moi-même, ça je pouvais pas, et je pouvais pas non plus ne pas l'écrire, donc voilà, je l'ai écrit. Mais je comprends cette idée d'une culture dominante et d'une culture dominée, ça je le comprends, et je non c'est non seulement d'une idée, mais cette réalité là, et je la elle me bouleverse, et je donne la voix à 12 ou 15 millions de victimes de cela dans mon livre. Mais en revanche, je voudrais qu'on donne la possibilité et ça commence dès l'enfance. Ça commence dès l'enfance à des auteurs noirs de s'emparer du sujet. Et là, il y a un déséquilibre, c'est certain. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques, mais il devrait y avoir un livre sur 15 écrit par un noir en France, ou un livre sur 12 si on suivait.
Il n'y a pas assez d'auteurs noirs aujourd'hui.
Oui, mais ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas. En revanche, il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Moi, je travaille avec le Labo des Histoires, qui est un lieu magnifique qui pousse à écrire dans les écoles, dans les quartiers. Et j'adore ça. C'est là qu'il faut semer des graines.
Finalement, votre livre, la sortie de votre livre, il tombe au pire moment avec l'affaire, la mort tragique de George Floyd et tous ces débats sur l'antiracisme qui reprennent aux États-Unis. S'il était sorti il y a un an, ça se serait très bien passé.
Alors je sais pas, parce que le pire moment c'est aussi le meilleur moment. C'est-à-dire c'est le moment. Franchement, cette affaire, c'est George Floyd et cette levée d'une communauté et d'ailleurs d'une humanité, parce que c'est ça, c'est ce qui est commun, ce territoire commun, c'est l'humanité. C'est tellement nécessaire que je suis heureux d'être une caisse de résonance de ça. Ça me dérange pas. Donc c'est drôle, il y a un virus qui est venu complètement qui a annulé la sortie de mon livre
en avril.
Et entre-temps, quelque chose de tellement improbable dans ce climat-là viral, c'est ce Black Lives Matter qui s'est levé, et juste après mon livre qui est venu se glisser. Il y a quelque chose qui est pas un hasard, je crois, et franchement je suis pas à plaindre.
Vous cherchez un autre éditeur pour sortir aux États-Unis ?
Oui, c'est mon éditeur français, Gallimard Jeunesse, qui cherche pour Alma un autre éditeur. On va voir comment ça se passe, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Ce qui m'empêche de dormir, c'est la vie d'Alma au quotidien, parce que j'écris la suite et que je suis tous les jours avec elle.
Ce serait pas quand même un crève-cœur de ne pas sortir aux États-Unis ?
C'est vrai que
justement parce qu'elle est magnifique, cette histoire d'Alma.
J'ai la chance que mes livres, j'ai eu 10 ou 12 livres qui sont parus aux États-Unis, en Angleterre. C'est vrai que je trouverais vraiment bien, je pense que aux lecteurs d'ailleurs, que aux lecteurs qui pourraient, et à mon héroïne aussi, et qui c'est important d'avoir ces héros qui traversent ces tragédies. L'esclavage n'est pas une aventure, mais on peut vivre une aventure dans toutes les tragédies.
En tout cas, nous en France, on a la chance de pouvoir dévorer ce livre, vraiment. Hein, c'est parfait pour l'été. Alma de Timothée de Fombelle, c'est à partir de quel âge? 11 ans, 12 ans?
Oui, je remarque.
C'est un vrai livre, hein, ouais. C'est un vrai roman
c'est 400
avec des belles illustrations
aussi. Oui,
c'est
vraiment c'est vraiment un roman, c'est une saga comme moi, j'en cherche toute la journée dans les librairies.
Et le tome 2 est attendu pour l'an prochain, en 2021. Merci à vous et bonne journée.
Merci.